Profil PM. L'international. Loïc Tassé.
I don't know how you can impeach somebody who's done a great job. If I ever got impeached, I think the market would crash. I think everybody would be very poor.
Hey, boboy, ça c'est Donald Trump qui dit « Je vois pas comment tu peux destituer quelqu'un qui fait une superbe job » en parlant de lui-même. Et là, il ajoute « Si jamais je suis destitué, ce sera le chaos, les marchés vont s'effondrer. » Loïc Tassé, bonjour.
Bonjour Bernard.
C'est quoi ça? C'est un nouvel accès de folie?
Oui, c'est un nouvel accès de folie. En fait, c'est dans une entrevue qui a été diffusée ce matin par Fox News de Trump. Et remarque bien ce que Trump a fait. Hein. En quelques semaines, quelques mois, il est passé de la négation la plus complète sur ce qui se passait avec les enquêtes, genre « j'ai jamais autorisé les paiements à Michael Cohen pour régler le problème avec les femmes avec qui j'aurais eu des relations sexuelles ouais, », bon d'accord. Ouais. Ensuite, il y a eu une interprétation loufoque de la loi ces derniers jours, c'est-à-dire « c'est pas un crime d'avoir fait ce genre de dépenses extra-électorales ».
Même si c'est clairement faux, même si c'est clairement un crime.
Clairement faux. Là.
Ouais, ouais.
Ah, maintenant, une forme de chantage, « si je pars, c'est le chaos ». Tu dis, écoute, branche-toi d'abord, puis ensuite, ce ne sera pas le chaos. Je suis désolé, mais ça serait bien plus le chaos si jamais tout le monde se rendait compte qu'il avait fait quelque chose de complètement illégal et qu'il n'était pas destitué. Là, les marchés tomberaient. À ce moment-là, les investisseurs perdraient confiance. Mais c'est sûr que si on s'aventure vers une destitution du président, à ce moment-là, c'est sûr qu'il va y avoir une route chaotique. C'est sûr qu'il va y avoir des petits problèmes à la bourse, c'est certain, ça engendre de l'incertitude. Mais oui. Ce serait pire encore qu'il reste si jamais tout le monde pense qu'il y a de l'illégalité,
qu'il y a commis
oui. un crime.
Parce que toi, ce que tu dis, c'est qu'à long terme, une crise institutionnelle, dans le fond, est pire que la condamnation d'un président qui aurait fauté. Là.
Ben oui,
oui
c'est assez évident.
Oui, d'accord.
Puis je pense que, tu sais, écoute, dans la même entrevue, il a refusé de dire s'il allait gracier ou non Paul Manafort, qui a été reconnu coupable de crimes bancaires, en disant « c'est merveilleux, il a été jusqu'au bout de son procès
». Ben oui.
Oui, mais suit la même logique, puis Al Capone aussi, il a été jusqu'au bout de son procès, tu sais. Sauf qu'Al Capone, c'est vrai, a plaidé coupable, puis le juge n'a pas voulu qu'il plaide coupable, mais quand même, il a été au bout de son procès. C'est complètement ridicule comme argumentation, ce genre d'argumentation-là.
Bon.
Et ça montre qu'il veut gracier Paul Manafort.
Ah, oui, je pense que c'est ce qu'il se prépare à faire.
Ouais.
Est-ce que sa décision est prise ou pas? On verra bien. Les États-Unis et la Chine qui continuent à s'envoyer des tarifs par la tête?
Oui, depuis 0h01 ce matin, il y a de nouveaux tarifs de part et d'autre de 16 milliards de dollars sur des produits chinois à 25% pour les États-Unis. On parle surtout de composantes électroniques, de machines-outils. La Chine aussi a décidé de taxer des produits à 16 milliards de dollars. Il y en a des centaines, mais on retient là-dedans surtout les Harley Davidson, le bourbon et le jus d'orange qui vont être taxés énormément.
T'as pas déjà fait ça?
Oh non,
c'est le Canada. C'est le Canada qui
avait taxé quelques-unes.
Oui,
il y a
oui,
déjà
oui.
des taxes de part et d'autre. Hein. Chacun a demandé pour 34 milliards de taxes supplémentaires.
Oui.
Les États-Unis avaient déjà demandé les panneaux solaires, l'acier, l'aluminium, ils avaient taxé ça. Et puis la Chine avait répondu en taxant le soja et le porc.
Oui.
Mais disons que ça va vraiment mal. En plus qu'en ce moment, il y a une réunion entre le vice-ministre du commerce de la Chine, le vice-ministre des finances de la Chine, qui sont à Washington.
Ben oui, donc, je pensais que...
Ils sont arrivés mercredi.
Ben oui, mais pourquoi est-ce que Trump leur impose des nouveaux tarifs.
Ben, d'abord, c'était décidé depuis longtemps.
Ah, OK. C'est pas une nouvelle...
Ils
viennent d'entrer en vigueur, c'est ça?
Ça vient d'entrer en vigueur.
Okay,
sauf
okay.
que la nouvelle, c'est que Trump a déclaré qu'il ne fallait pas s'attendre à grand-chose alors que la partie chinoise fait preuve d'optimisme. À long terme, moi, je pense que la Chine va probablement gagner cette guerre si Trump poursuit sa stratégie d'y aller tout seul en cow-boy. Mais à court terme, c'est sûr que ça va faire très, très mal à la Chine parce que, évidemment, la Chine a un déficit commercial en produits, plutôt un avantage de
balance commerciale. Un surplus
de 375 milliards de dollars. Donc, c'est évident que ça va faire mal à la Chine.
La Chine vend pour 375 milliards de plus que les États-Unis vendent à la Chine.
Exactement.
Aïe.
Et ça va mal en Chine en plus en ce moment parce que, tu vois, depuis janvier, la bourse de Shanghai a baissé de 22%, ce qui est quand même pas rien. La devise a baissé et on se rend compte en ce moment que toutes les contraintes politiques que le gouvernement chinois impose à sa bureaucratie, etc., à l'économie, au nom de la corruption, mais en fait, c'est au nom de la la centralisation des pouvoirs entre les mains du président Xi Jinping, mais ça fait très peur à la bureaucratie et tout ralentit. Toute l'économie commence à ralentir parce que les gens ont peur de prendre des initiatives, parce qu'ils ont peur d'être ciblés dans les campagnes anticorruption. Ça pose un problème à la Chine en ce moment et dans les mois qui viennent.
Et rappelons-nous, hein, le régime chinois se maintient parce qu'il a réussi, par la peur et par la croissance aussi. Le Parti communiste chinois
Parce que les gens n'aiment pas le Parti communiste chinois.
Ils se sont enrichis. Exact. Et tant qu'ils s'enrichissent, donc tant que l'économie va bien, le Parti communiste, ça va.
C'est ça. Contrat tacite entre la population et le Parti communiste.
Mais le jour où l'économie va moins bien en Chine, il pourrait y avoir de grandes turbulences politiques.
Absolument d'accord avec toi.
Voilà. Parlons d'Australie.
Ça va mal en Australie. Le premier ministre, Michael Turnbull, a perdu le soutien des membres de son parti. Il fait face vraiment à une mutinerie à l'intérieur de son parti. Le problème, c'est qu'il refuse de mettre dans la nouvelle loi sur l'énergie des quotas sur l'émission des gaz à effet de serre. Et donc, il y a eu un premier vote mardi au sein de son caucus.
Donc, c'est député. C'est député.
48 pour lui et 35 ont dit, non, il faut que vous partiez.
Il a gagné son vote, mais très peu.
Il y a 43 députés qui lui ont resoumis une lettre, donc plus de gens que ceux qui avaient voté contre lui. On dit, il faut que vous preniez un nouveau vote et ça va se tenir demain. Et il y a trois candidats importants qui se présentent contre lui. Peter Dutton, qui est l'ex-ministre de l'Intérieur, Julie Bishop, qui est quand même la vice-présidente du parti, c'est le parti des libéraux depuis 2007, et Scott Morrison, qui est le trésorier de l'Australie et qui, jusqu'à hier, était encore en faveur de Turnbull. Donc, on va voir ce qui va arriver. Il faut dire qu'en Australie, depuis 10 ans,
est-ce que c'est les conservateurs qui sont au pouvoir actuellement?
C'est des libéraux, mais ils sont tellement conservateurs que tu pourrais les appeler des conservateurs. Okay. L'opposition est travailliste.
Oui, c'est ça.
Donc,
le Labour.
Et c'est ça. Et Turnbull dit, écoutez, c'est une lutte interne. Il y a des gens qui veulent ma place. C'est tout simplement des gens qui veulent être calife à la place du calife. Et ils vont prendre n'importe quel prétexte pour prendre le pouvoir. C'est ça qui est en train de se produire.
Mais c'est pas le premier ministre australien qui se fait contester et qui pourrait sauter, parce qu'il y en a eu d'autres avant lui.
Mais comme je te dis, depuis 10 ans, il y a eu 8 premiers ministres australiens. Il n'y en a aucun qui a terminé son mandat. Alors, s'il y a vraiment un problème...
C'est beaucoup trop. OK. Rapidement, une belle histoire. Roméo et Juliette.
Oui, absolument. C'est Roméo et Juliette. Écoute, Roméo, il s'appelle en l'occurrence Per Sandberg. C'est le ministre norvégien de la pêche, vice-président du Parti du Progrès, un parti anti-immigration, anti-islam, qui professe, et je cite, que les races et les cultures ne peuvent pas se mélanger. Et Juliette, c'est Baharet Letnes, qui est une iranienne, réfugiée en Norvège. Les deux sont tombés complètement amoureux l'un de l'autre. Ils sont partis en voyage secret en Iran en juillet. Parce que, évidemment, le ministre norvégien ne voulait pas que sa femme soit au courant.
Mais il ne voulait peut-être pas que son parti aussi...
Il voulait que personne soit au courant.
Oui, c'est ça, parce que selon l'idéologie de son parti, il n'est pas supposé tomber en amour avec une iranienne, lui-là.
Non. Anti-islam, anti-mélange des cultures. Oui. Sauf que Mme Letnes, donc Juliette, si tu veux, elle s'est mise à publier des photos de son voyage de couple sur Instagram. C'est pas particulièrement discret. Et alors, les services secrets norvégiens s'en sont mêlés. Eux croient que cette femme est possiblement manipulée par les services secrets iraniens. Donc, le ministre a été obligé de démissionner le 13 août. Mais quand même, l'histoire finit mieux que dans Roméo et Juliette. On sait que les deux s'empoisonnent. Je suis désolé pour les gens qui n'avaient pas vu la film ou la pièce.
Ça va.
Bon. Alors, les deux veulent écrire un livre sur le thème de l'amour et du voyage.
Et lui a démissionné.
Mais il a quand même démissionné. Mais ils vont écrire un livre ensemble. Ils sont ensemble. Je crois qu'il n'est plus avec sa femme non plus.
Et je crois qu'il n'est plus avec son parti anti-immigration et anti-mélange des cultures. C'est possible. Loïc Tassé, merci.
Je t'en prie.
Dans un instant, le monde de Paul Oud.
98.5. Circulation.